Bonjour, Benoît. J'imagine que ça a marché hier, si on le retente aujourd'hui.
Pas vraiment vérifié, mais je pense.
Après, je pense. On fait confiance. Ouais. Alors, depuis hier, depuis 24 heures, peut-être que les choses ont cheminé en vous depuis ce qu'on a parlé ici, les promenades qu'on avait faites, les assises, les entretiens, etc. Donc, est-ce qu'il y a des choses, des questions par rapport à hier, ou est-ce que des choses sont passées comme hier pendant la promenade ou dans la méditation avec les sons, et les choses, les rebonds de ce qui a été dit hier.
Notre zazen sur les blocs de pierre était magnifique, esthétiquement. Je pense qu'on a fait le bonheur des randonneurs qui passaient par là.
Il y en avait ?
Il y a quelques-uns qui sont passés.
Ils passaient tous sous la roche.
Ah oui, moi j'étais devant, donc j'ai pas vu ça.
Je me disais, ils doivent penser qu'on est un groupe de sourds. Ils disaient tous bonjour.
De quoi, un groupe de sourds ?
Ils pensaient peut-être qu'on était des sourds. Je ne sais plus comment on
entendait. Ils m'allaient lui.
Quoi?
Mal élevé.
Et on n'avait pas choisi exprès ce lieu. Ce lieu est venu à nous, hein, en fait. On est arrivé là et on s'est dit, bah oui, pourquoi pas.
Avec vue sur les morts.
C'est ça. On était de l'autre côté du petit vallée, on voyait le monument aux morts. Tu vois un peu où
on était. On n'est pas parti tout à fait.
Moi, je peux partager deux choses. Tu avais commencé en disant qu'est-ce qu'on fait. Et j'avais un call hier avec ma filleule qui a 13 ans, 12 ans, qui voulait m'appeler parce qu'elle a un exposé à faire sur le bouddhisme. et donc, j'avais dit à ses parents. Juste qu'elle prépare ses questions avant que j'ai pas à faire, que je lui fasse pas son exposé. Donc elle a des petites questions quand même. Et j'étais totalement désarçonné parce que je pensais qu'elle allait me dire mais alors à quoi tu crois ou qu'est-ce que tu fais, etc. Je me dis bon alors d'abord vous portez quels vêtements? Et puis c'est quoi la il y a des grandes fêtes, vous célébrez, il y a des grandes dates, des grandes fêtes chaque année. Et c'était que des choses externes, enfin et à la fin j'ai elle me disait bon mais c'est bon, elle avait toute une série comme ça qui n'avait vraiment pas grand chose à voir avec qu'est-ce qu'on fait fondamentalement. Donc je l'ai quand même rattrapé à la fin. J'ai dit, bon, faut quand même que tu parles de telle et telle chose. Quand même, le sentier octuple, c'est important, quand même. Donc sur le qu'est-ce qu'on fait, c'est important.
Elle a été à ta transmission?
Non, son père était à la transmission. Ah, mais...
Parce que j'ai cru qu'elle aurait pu penser qu'on s'habille comme ça tout le temps. Il y a des fêtes comme ça tout le temps.
Non, et en fait, j'avais beaucoup de mal à répondre parce que j'avais l'impression qu'à chacune de ces questions, ça dépend où on regarde et ça dépend... Il y a le bouddhisme en général, c'est très compliqué pour répondre à des questions sur le bouddhisme en général. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais quand même, c'était intéressant de voir comment fonctionne un esprit de 13 ans sur... de 12 ans sur ça. Non, et l'autre chose sur les sons et juste être là, en fait, moi, ça m'a ramené à... À ce matin, quand on récitait le verse Gate of Atonement, verset du repentir, toujours ce truc qu'est-ce que c'est depuis des temps sans commencement. À chaque fois, il y a cette phrase depuis des temps sans commencement, et ça m'évoque à la fois ce que tu, par exemple, l'exemple que tu avais pris où tu marchais, et puis on voit les sons, et puis on voit ce qui se passe, et puis on a des jugements sur les choses, et puis on est pris par une émotion, par rapport, oui, c'est pas juste, etc. Et puis même si on était en Corse, on pourrait se dire, même on va faire même péter les maisons, parce que c'est pas juste. Et donc c'est cet enchaînement comme ça, et comment on entraîne l'esprit pour ne pas qu'il y ait cet enchaînement causal. Et si on le reprend en arrière, pas juste en avant, mais en arrière, et c'est vraiment là, depuis des temps sans commencement, de voir cet enchaînement. Depuis des temps sans commencement. Et est-ce que c'est... Le conditionnement, c'est très difficile. Enfin, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Enfin, voilà, en tous les cas, une idée bouddhiste très spécifique, parce que il n'y a pas de cause première.
Tu lui as pas dit ça.
Non. Non, mais à un moment, c'était drôle parce qu'elle m'a dit, bon, évidemment, c'était même pas une question, bon, évidemment, vous avez un dieu. Je dis, en fait, non.
C'est important, ça. Ah oui. D'où l'intérêt de venir avant les concepts, avant tout, quoi. Avant le commencement, qui n'a pas de commencement, sans commencement.
Ça a éveillé, là j'y pense maintenant, un autre commentaire tout à l'heure, quand tu parles de avant, je pense souvent à la préhistoire, néolithique et longtemps d'avant, c'est des sujets qui m'intéressent. Et je me disais, mais quand est-ce que les humains ont commencé à s'habiller? Parce que là, effectivement, on a des couches, on n'est pas nu corporellement, et donc on n'est pas nu, et les deux sont liés, quoi. Donc toutes les couches qu'on a dans l'esprit correspondent à des vêtements corporels qui se sont mis à travers le temps. Et donc, je disais, néolithique, après, j'ai dit, oui, certainement, la période de glaciation, il y a moins de 1000 ans, de faire froid, donc là, c'était par nécessité, à se mettre les peaux de bête. Mais bon, c'était pour le froid, c'était pas... Et puis après, comment le vêtement s'est intégré dans l'humain en même temps qu'il y avait des couches qui masquaient les premiers instincts. Voilà. Et en fait, je sais d'où ça vient, c'est que j'ai lu un petit article. Bon, là, je commence à délirer. Là. J'ai lu un petit, pas délirer, mais je veux dire, là, je commence à être trop bavard. Je lisais Le Monde, des livres... rapidement, et il y avait un article de Roger pour le droit sur quelqu'un qui a écrit un livre disant que les premiers écrivains la philosophie grecque en fait n'a pas été créée par les Grecs mais venait du néolithique. Mais là je m'arrête parce que sinon je vais pas revenir trop loin. Et pour dire tout ça qu'il y avait, dans la philosophie et dans les croyances, c'était lié pour moi aux vêtements corporels extérieurs, quoi. C'était, il doit y avoir un parallèle à faire quelque part.
C'est sûr, tout est interconnecté, hein. Et tout le le karma, entre guillemets, il a causé l'effet, va amener... quelque chose va amener un résultat, une conséquence. Et,
on peut faire l'essai, hein, si on médite toute nuit, si ça nous apporte.
Quoi?
Si c'est plus efficace, si on médite toute nuit, on peut faire l'essai en juillet.
C'est les Allemands qui
parlent. Oui, c'est l'Allemand.
C'est les Allemands.
Elle est allemande.
C'est préjugé.
Cela dit, il y a des pratiques chez les Tibétains comme ça, que faisait pratiquer, oui. Que pratiquait, comment elle s'appelle, celle qui est allée au Tibet, là, la première,
Alexandra.
Oui, elle raconte ça. Ouais. Pour contrôler l'esprit et que même créer, auto-créer de la chaleur.
Faire fondre la neige autour.
Bah, oui,
faire fondre la neige.
Bah, oui, il y a des légendes, des pratiquants très avancés dans les Himalayas, etc., qui sont aucun problème avec le froid, la neige, tout ça. Et même plus moderne, hein, comment il s'appelait, il y a ce gars, le Wim Hof, qui pratique ça. Qui...
Il marche dans la neige.
Oui. Ça fait.
Je voulais dire, tu sais, en fait, c'est tout un enchaînement de. Du coup, quand on s'est arrêté pour faire cette méditation hier, donc c'est ce que je t'ai dit, c'est que j'étais très. Je me sentais vraiment très. Je sentais beaucoup de gratitude par rapport à cette forêt parce que il m'est apparu pendant ma méditation qu'en fait cette forêt était revenue plein de fois dans ma vie de manière par hasard cette forêt de Fontainebleau elle est venue à des moments comme me protéger, enfin il y a vraiment quelque chose de cet ordre là et puis pendant le Dokusan, à la fin du Dokusan, en fait je suis ressortie et en fait avec c'est toi qui as dit cette phrase Amy, de je suis la forêt, enfin tu es la forêt, donc je suis la forêt. Et du coup c'était génial parce que moi c'était génial de remonter ici et de vivre ça en fait, d'être la forêt. Enfin de m'accorder ça, ce que j'avais vraiment pas fait pendant le. J'étais vraiment grateful to the forest. And this morning I was the forest. So I was grateful to me, to the true way. And that was really. It feels good to be grateful to me.
Important, ça. Ouais. C'est pas tant méditer nu, mais. Méditer dehors. En fait, on est toujours nu, mais on ne sait pas. Et peut-être que quand on est dans les éléments comme ça, c'est pour ça que j'aime le wild, sauvage. Ça nous ramène plus à cet aspect nu de nous-mêmes, peut-être. La première fois que j'ai rencontré Genpo, le maître de mon maître, dans le Dokusan que j'ai eu avec lui, enfin, c'était toujours Daisan, il était toujours sensei à cette époque.
Ça s'appelle différemment quand c'est...
Oui.
Ah, ok.
Alors, par exemple, quand Joa fait ça, c'est des Daisan. Uh-huh. Il est sensei. Quand moi, un Roshi fait ça, c'est Dokusan. Uh-huh. C'est dans notre lignée, c'est comme ça. Enfin, dans les traditions zen, c'est comme ça. Je crois qu'il y a des... Dans le pur soto, on ne fait pas cette distinction.
Je connaissais même pas le deuxième terme.
Ouais.
Dokusan ?
Non, je connaissais Dokusan, mais pas l'autre terme.
Daisan.
Daisan, je ne connais pas.
Bah, c'est peut-être... Oui, donc c'est peut-être Rinzai, je ne sais pas. Bref. C'est pas très important. Hein, Généralement, on dit entretien. Parce que c'est. Et je sais qu'à ZCLA, à Los Angeles, notre temple mère, il dit face to face.
Oui.
Toujours. Et il utilise ça comme un nom. Un noun, face to face. Donc, il y aura pendant la retraite face-to-face. C'est qu'on ait une rencontre face-to-face. Oui, voilà, la première fois que j'étais dans un entretien avec Gyanpo, il me demande qu'est-ce que je veux dans cette pratique. Qu'est-ce que je veux. Et je lui dis, parce que c'était ça, à l'époque, c'était vraiment ce que je voulais, je dis, je veux voir les choses nues. J'étais vraiment accrochée, enfin, c'était mon corps déjà, bien que je ne travaillais pas sur les corps, c'est mon os que je... C'était voir les choses nues. Et je savais ce que je voulais dire par ça. Il avait l'air de comprendre ce que je voulais dire. Heureusement, il n'a pas enlevé ses habits. Connaissons bien Paul. Ouais. On peut imaginer que ça aurait été possible, ça. Mais moi, je ne savais pas. Mais il avait l'air de comprendre ce que je disais. Donc. Et c'est toujours ça. Moi, c'est toujours ça. Les choses nues, c'est juste des choses telles qu'elles sont. Quoi. Les choses ici, maintenant. Et quand on, tout ce qu'on a dit hier avec des concepts, venir avant, c'est ça. C'est d'expérimenter les choses avant qu'on met un mot dessus, avant un concept, une idée.
Can you tell us what it was in English? Is it naked truth, naked reality?
What I wanted?
Yeah.
I want to see things naked.
Oh, see things naked.
In fact, that sounds a little bit dangerous. But,
not your fan.
Yeah, not you, but everything else. Donc voilà, c'était ça. Alors moi-même, j'avais fait quelques notes depuis hier pour ne pas oublier. Et il y a cette notion de c'est difficile de dire en français, en anglais c'est wildness, c'est pas wilderness, c'est wildness, le fait d'être sauvage, l'état sauvage, disons. Ce qui est l'état nu. Quand je parle de ça, c'est ça. C'est wild. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de David Hinton. Ça dit quelque chose? Oui, c'est un traducteur, c'est un Américain, mais qui est traducteur, poète. Il a traduit beaucoup de choses chinoises. Notamment les choses taoïstes, Lao Tzu, poésie, mais il a écrit un livre qui s'appelle China Root.
Oui,
et où il trace les origines du Chan, qui, parce que Zen était en Chine, et c'est venu au Japon et puis aux États-Unis. Principalement, on appelle ça Zen aux États-Unis parce que pour la plupart, c'est venu du Japon. Donc il trace, il va à les origines, avant le commencement, avant. Et donc lui, il a cette, il dit que l'idéogramme pour le mot Chan, c'est une transliteration du sanskrit dhyana, parce que les Indiens pratiquaient ce qu'ils appelaient les dhyana, méditation. Ils ont amené ça en Chine et les Chinois, donc ils ont entendu ça, ils ont fait un mot Chan. Et ce chercheur, David Hinton, dit que l'idéogramme pour ce mot Chan, c'est hôtel, altar, ou sacrifice au, et ça c'est sacrifice to rivers and mountains. Donc nous traduisons rivers and mountains comme un seul. Sacrifice aux rivières et montagnes. Et lui, moi j'entends ça, et lui, ce qui, à la suite, il a une différente formulation, mais c'est la même idée, c'est donc cette montagne, cette méditation, c'est un lieu où c'est le, la pratique ou le lieu pour demeurer un avec le wildness, avec le landscape, le paysage. Lui, il dit paysage. Mais le paysage, dedans et dedans. Et lui, il dit rester honor the landscape. Moi, je trouve que ça, c'est déjà une séparation. Hein, mais... Et, mais il dit aussi que c'est demeurer intégral avec le déroulement du cosmos, quoi, de wildness. Tout ça se revient. Et donc, pour lui, il estime que ça a été perdu dans le zen tel que c'est pratiqué en Occident. Personnellement, je ne trouve pas que c'est perdu. Tel que moi, je le pratique, et je trouve que notre pratique est absolument ça. C'est possible que dans différentes sanghas, différents lignages, différentes écoles, ça a été perdu. Mais je trouve que dans notre lignage, ça, c'est intègre, ça. Il s'agit d'être un avec ce qui est, on dit, ou de revenir à l'unité. Ça ne veut pas dire oublier la diversité, mais c'est rester ici pour expérimenter l'unité. Pour moi, c'est demeurer intégral avec le paysage. C'est juste une autre façon de le dire. Alors, donc, ce que je disais hier à propos de ne pas avoir des concepts, de se aller avant, c'est ça. C'est un mouvement pour revenir à the wildness, à l'état sauvage qui est le la nature, les choses nues. Et je sais que je n'ai pas le livre avec moi, hein, donc je me souviens simplement, mais il dit, David Hinton, il dit des choses comme que ce qu'on appelle the wildness, cette vraie nature, si on veut, c'est un peu comme hier, comme on avait dit, avec les sons. C'est-à-dire qu'il y a le son, un, et de là, viennent les 10 000 sons, quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose à part, mais c'est, tout est une manifestation de ça, disons. De cette wilderness, de cette wild, y compris nous. Et c'est là pourquoi on dit on n'est pas séparés des arbres. On est la forêt parce qu'on est la même nature, on est juste une autre manifestation de ça. Alors de là, donc quelqu'un m'a demandé par rapport à les émotions, et ce qui était émotionnel, qui était spirituel, etc., parce qu'on avait parlé des événements quand on était... on a pleuré, ou cette soldat qui était qui sanglotait face à ce qu'il voyait, etc. Alors, quand on parle de l'éveil ou le prajna, comme on dit, c'est la sagesse, quand on revient à le un, quand on voit l'unité des choses, etc. C'est pas une émotion. Ça peut susciter une émotion. On peut pleurer, on peut rigoler, on peut avoir de la joie, on peut être dévasté parce que ça correspond pas à ce que je pensais. On peut avoir plein d'émotions qui viennent de ça. Mais l'expérience même, c'est pas une émotion. C'était juste pour préciser ça. cette sagesse, entre guillemets, cette prajna, c'est quelque chose qui est avant interprétation, intellectualisation, réaction émotionnelle et tout ça. Ça peut donner ça à la suite. On peut avoir une émotion à la suite. En réponse à ça, on peut essayer de, comme je fais, comme essayer de décrire. On peut essayer de l'interpréter, de créer des schémas, c'est comme ça que ça marche, etc. Mais ce n'est pas ça l'expérience. D'où l'intérêt d'aller marcher dans la forêt. C'était pour avoir, de se plonger dans la situation directe et qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas toutes ces paroles que je fais. Quelle est ton expérience dans la forêt? Et c'est pour ça aussi que je voulais savoir ce qui se passait pour vous. Et les koans, pour revenir à ça aussi, c'est, je crois que David Hinton, il parle des koans aussi, mais je ne me souviens pas. Vous avez lu, you read his book, his China Root book, and does he talk about koans, I think, right?
Yes, about the word koan.
Right.
But I don't think he mentions too many koans.
Right, yeah, I don't think he's familiar really with the practice.
No,
of it.
No, I don't think so.
Il parle du mot des koans, et je crois qu'il parle de mots, le caractère, parce que c'est un intellectuel quand même, hein, c'est un chercheur, mais qui a une pratique, hein, je crois.
Oui.
Oui, ouais, je crois qu'il a une pratique. Et il dit que dans mou, qu'on traduit comme mou, c'est chinois, c'est japonais. Ça vient du wu, qui est chinois, et qui veut dire, on dit facilement, on dit que ça veut dire absence. Mais ce n'est pas l'absence comme on entend. C'est comme emptiness, et souvent, le vide est. Et souvent, on a une idée de ce que c'est. C'est plutôt absence comme... C'est difficile à dire, parce que c'est tout de suite, on va mettre les mots dessus. Je crois qu'il, lui, il décrit comme quelque chose comme c'est un... Do you remember how he described it? Something like... Il part toujours du cosmos. Donc, c'est le cosmos comme un tissu génératif qui va générer des choses, un tissu unique qui va générer tout un tas de choses. Mais même ça, c'est très conceptuel. Et c'est plutôt revenir avant les idées qu'on a mis dessus. C'est plutôt ça, l'idée, de, quand on dit absence. C'est pas qu'il n'y a pas tous ces concepts et ces mots et tout ça. C'est qu'est-ce qu'il y a avant.
L'humidité, ce
quoi?
Que tu disais. Nu.
Voilà, nu, sans commencement. Oui, c'est ça, nu, exactement. Et les koans, donc, c'est... C'est une pratique qui nous amène, qui nous apprenne à expérimenter cette entre guillemets absence et répondre de là, de faire confiance à ce qui vient. Souvent, on va parler de no mind. C'est toujours no dans la terminologie zen. No mind, no effort, tout un tas de choses comme ça. Parce que le langage ne nous permet pas de dire autrement. Mais les koans, ça vise à nous pousser dans nos... On ne sait plus. On est tellement épuisé, notre esprit, à trouver des solutions intellectuelles. Essayer de dire, ah tiens, j'ai passé quelques camps, donc je sais qu'il faut faire ça. Et c'est pas ça. C'est épuiser tout ça, de nous pousser dans nos... de retirer les tapis. C'est plutôt que pousser, c'est retirer les tapis encore et encore et encore, sans commencement encore. Pour que quelque chose de vrai ou nu, soudain on voit. Le problème, c'est que souvent on ne fait pas confiance à ça. On va dire, oh, c'est trop simple, c'est trop bête, ça ne peut pas être ça, c'est trop clair, c'est trop évident. Ben, bien sûr que c'est évident, mais tu as passé 3 ans à chercher. je ne sais pas. mais c'est évident. Mais, et donc, il y a tellement de courants parce que ça nous apprend à faire confiance à ça. À sentir ça et dire, ah oui, c'est peut-être ça. Dire, ah oui, ça doit être ça. Parce qu'on commence à être familier avec physiquement ce qui se passe quand on a ce genre de réalisation, d'expérience. Bon, évidemment, on dit il faut pas faire d'effort, mais il faut de l'effort. Sinon, c'est pas possible. Hein. C'est comme je disais l'autre soir dans un talk, je crois. C'était si on amène notre courant juste une demi-heure avant le Dokusan, bah non, ça va pas se faire. Et dans le livre, il y a une collection des courants qui est The Transmission of the Lamp. De transmission de la, non, de la lumière, Transmission of the Light, qui est une histoire des 52 ancêtres dans notre lignage et leur relation avec leur maître. Donc c'est tout le lignage jusqu'au petit-fils de Dogen qui sont traités. Et c'est lui, Keizan, le petit-fils dans le Dharma de Dogen, qui a compilé cette collection. Et donc lui, il a formé les commentaires et la façon de présenter de différentes façons. Enfin, il a un schéma pour ça. Mais les deux idées principales sur lesquelles il insiste dans toutes les histoires, c'est la pratique sans commencement, sans fin, sans début, mais assidue, totale. La pratique du zen. La vie de zen, vie de pratique la vie, etc. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est justement cette light, cette lumière. Qu'est-ce que c'est cette lumière qui est transmise? Parce qu'il y a une transmission dans toutes ces histoires. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui est transmise? On peut dire que, et Keizan se présente ça un peu comme ça, c'est que quand, enfin c'est toujours comme ça, quand le disciple réalise cette lumière en lui, bah, la transmission est faite. Et ça ne vient pas de l'extérieur. En même temps, il faut étudier, il faut pratiquer avec quelqu'un, on ne peut pas faire toute seule, entre guillemets. Mais en fait, ce n'est que toi qui le réalises. Donc. Et c'est un peu... C'est pas vraiment une super chérie, mais c'est un peu... C'est toujours douce amère pour moi, les transmissions, les cérémonies, les coming out, et tout ça. J'ai vécu ça récemment, la transmission de joie, parce que on met cette personne, c'est tellement... Tout le monde fait de personne, il y a grande... Tous les amis, la famille, la sangha, tout le monde vient, c'est un énorme truc. Tous les maîtres sont là, habillés en grande pompe. Il y a des cérémonies tout le temps. Le pauvre personne qui reçoit la transmission passe ses journées à prosterner. tout un tas de trucs. Mais en fait... C'est juste ceci, c'est juste cela. Et c'est le début de quelque chose qui est beaucoup plus difficile, d'une certaine manière, que ce qu'on avait fait auparavant. C'est magnifique, en même temps, ça me fait toujours un peu de chagrin. Enfin, c'est pas vraiment du chagrin, mais toujours un peu. Oui, c'est magnifique, il faut le faire, il faut le fêter, il faut faire tout ça. En même temps, attends, c'est. Lui, il va savoir. Mais il le sait, d'une certaine manière, il le sait aussi. Déjà, il le sait, sinon, il ne sera pas là, dans cette position. Il apprend autrement après, n'est-ce pas?
Oui. Journée.
Oui, c'est très difficile, c'est un chemin très difficile. Et je dis ça strictement dit dans la transmission comme ça, mais c'est la même chose pour chacun de nous. On a tous le même cheminement à faire. La lumière, tu es cette lumière. Mais il n'y a que toi qui peux la réaliser. C'est vrai. C'est la seule possibilité. Je peux dire en tant que quand je vous reçois, quand je vous connais, moi je le vois en vous, en chacun. Aucun doute, aucun doute, aucun doute. Mais ce n'est pas important tellement si moi je le vois. Ce qui est important, c'est que vous, vous voyez ça. Et que vous, vous réalisez ça. Et vous voyez ça.
Je repense souvent à ce que tu avais mentionné, ce que Gampo avait dit à ta transmission, que c'est aussi un peu ça ressemble à un enterrement aussi. Et il y a vraiment quelque chose de ça aussi, it's like the former self is gone forever. Et en même temps, alors c'est pas tellement égodou, mais c'est paradoxal. Je me souviens de mon père qui était tellement fier, but it's gone. Je comprends, je vois bien d'où ça vient, mais en même temps, something is, comme si ça nous appartient plus, quoi. Du tout.
C'est autre chose.
Et en même temps, enfin, aimer, Franck m'a dit quelque chose de semblable il y a très longtemps. On dit, oui, mais si j'aime pas ce truc-là, je vais partir, et tu pourras plus. Parce qu'une fois qu'on est frappé, c'est tout.
À un moment, quand moi j'étais un peu dans la phase où Joe est maintenant, et moi je voulais tout arrêter parce que je ne savais pas quoi faire, c'était tellement difficile et j'étais tellement seule et tout. Et Roshi m'avait dit, vas-y, fais ce que tu veux parce que tout ce que tu fais, ça va être le Dharma. Et c'est ça qu'on réalise, oui, évidemment. Donc oui, je peux arrêter ça, ne pas faire comme ceci ou cela, mais ce sera le dharma. Et je savais ça. Ça ne m'a pas vraiment aidé. Ça aurait été plutôt, je ne sais pas ce qui pourrait aider. Je vais te dire comment faire, quoi.
Oui, conseil pratique.
Exactement, c'est ça. Mais en même temps, je ne voulais pas qu'elle me dise ce qu'il faut faire. Donc, Oui. Une fois que... Et vous avez tous eu une expérience de quelque chose, sinon tu ne seras pas là. Hein. Une fois que vous avez un aperçu de ça, c'est plus pareil l'expérience du monde. On va l'oublier, on va se perdre dans les méandres de notre vie, etc. Mais ça revient parce qu'on a déjà expérimenté quelque chose. Sinon, on ne sera pas là. Et on va se rendre la vie difficile, à faire des bêtises, à ne pas comprendre vraiment pourquoi je me suis conduit comme ça, pourquoi j'ai fait ceci ou cela. me perdre dans une activité qui n'est pas vraiment ce que je voulais, etc. Mais, ou est, ouais, peut-être est, ça va revenir. C'est, il y a quelque chose, sinon tu ne serais pas là. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est aussi la mauvaise nouvelle si on dit bah, on va se perdre, on va faire des bêtises de nouveau.
Oui, il y a une tristesse quand tu dis ça, parce que dans ma sangha, quand Jacques Brosse est mort, il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui sont envolés, quoi, que je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, qui ont arrêté, tout ça, tu vois.
Ouais. Ça, c'est très difficile. Quand le maître meurt, il n'y a pas de...
Alors ça continue autrement maintenant, mais moi je parle de ceux qui ont été ordonnés avec moi, ou tu vois.
Oui. Au même temps, on ne sait pas. Hein.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font, tout ça, c'est vrai.
On a une idée de... Encore au Gimpo, une fois, je ne me souviens plus, c'était un déjeuner ou je ne sais pas, et quelqu'un est venu et... annoncé qu'il allait se marier ou un truc comme ça, et quelqu'un dit à table, ah, est-ce que ta femme, elle pratique une chose comme ça? Gimpo était, mais bon, c'était un élève de Gimpo, mais il a dévolé en disant, mais qu'est-ce que tu veux dire pour pratiquer? Chacun pratique de sa façon dans sa vie telle qu'elle est, etc. Bon, il voulait aller vraiment contre cette idée qu'il faut faire cette pratique de cette façon.
Bien sûr.
Dans tel ou tel lieu, etc., etc.
Et on se marie qu'entre nous.
Quoi?
Et on ne se marie qu'entre nous.
Voilà. Et donc, il voulait vraiment ouvrir ça, et comme il m'avait dit, un sangha. L'univers, c'est le sangha. Il n'y a pas... Il n'y a pas un sangha exclusif. Quoi. C'est... Donc, je sais, je comprends ce que tu veux dire. Et je vois des gens partir... pas parce que je suis morte ou parce que Gyanu Roshi est mort, mais je vois les gens qui sont partis. Et je comprends comment ça peut... Quel est le sentiment qu'on puisse avoir. En même temps, j'ai vraiment confiance que les gens trouvent leur chemin d'une façon ou d'une autre. Ceux que je connais sont... On trouve d'autres choses, ou pas, ou je n'ai plus de contact. Il y a ça aussi, il y a des gens. Il y a des gens aux qui j'ai donné Jukai, dont j'ai absolument pas de nouvelles. Et oui, ça c'est Roshi aussi. Hein.
Franck Roshi aussi, toute sa première aussi. Génération
a oui. Donc, c'est...
Ça fait partie finalement du zen aussi, enfin de...
C'est ça. Ouais. C'est les méandres de la vie. Et
il y en a d'autres qui n'ont jamais fait de chukai et qui se l'ont toujours pas. Exactement.
Ah, voilà, exactement.
Ce fut la majorité pendant très
longtemps. C'est ça. Exactement. Et donc, c'est juste.
Ça n'avait pas été pour ta
bah oui. En catastrophe. En catastrophe, après, deux mois avant la transmission avec Freddy et
Thomas.
Et Thomas qui finissait une heure avant son rakusu pour qu'il y ait quand même quelques personnes à ma transmission avec des rakusu.
Voilà, les personnes un peu avancées, soi-disant dans la pratique, qui ont des rakusu. Hein, parce qu'il y avait des tout nouveaux qui avaient des rakusu. Mais... Mais je fais confiance que chacun a son chemin et que c'est parfait. C'est... Il n'y a aucune obligation de faire jukai. Hein. J'ai toujours évité.
Mais quand même, un jukai nu.
Ça, je n'ai jamais expérimenté, je n'ai jamais vu.
Tu dis ça parce que tu l'as déjà fait.
On peut pas refaire du jukai. Si c'est nu, je veux bien refaire du jukai.
Bah, proprement dit, non, mais d'une certaine façon, on est nu quand on.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs c'est vrai.
You take refuge in something.
What? You take refuge. On a parlé de ça dans le groupe d'études.
Je vois un double joker, un là et un
là. Rakusu.
Double Rakusu.
T'as vu la difficulté là?
Oui, alors.
Mais c'est vrai, Sylvaine, the teacher is the glue, c'est vraiment la, the glue,
oui,
qui fait tenir la, la colle, qui fait tenir l'ensemble. Et la sangha, c'est quand même un énorme soutien. Et la sangha, c'est une grande question parce que j'ai beaucoup fréquenté Stephen Batchelor sur ses idées du siècle dharma. Un peu où il n'y a pas vraiment de sangha, il n'y a pas vraiment de teacher, et donc on finissait des trucs de siècle dharma en disant bah voilà, faites ce que vous voulez. Ça ne tient pas en fait. C'est très difficile sans teacher, c'est très compliqué. Inévitablement, on se retrouve dans des histoires de pouvoir, de pratiquer, qui donne l'inspiration. C'est très compliqué. C'est très très compliqué.
C'est très compliqué, mais en même temps, je me demande si, au niveau de l'humanité aujourd'hui, si c'est pas un chemin possible dans le futur, par rapport à ce brassement des religions, des spiritualités, tout ça qui s'est fait avec la mondialisation. Moi, je participe à un centre qui s'appelle le Centre Sésame, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler, toi tu connais, il y a donc c'est Abdennour Bidar, c'est un philosophe qui a été avec qui est musulman, français musulman, et
le teacher donc.
Non, il n'est pas teacher, non, 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 justement.
Je sais.
Et non, justement.
Et
je...
en fait, quand même un petit.
Pas non.
Ah, il introduit tous les séminaires.
Ah non, c'est lui qui. Bon, attends. Par rapport sans.
Je laisse finir. Je me permets parce que c'est un ami. Donc.
Non, c'est lui qui a impulsé ça à l'origine, c'est sûr. Mais c'est lui qui est donc musulman. Enfin, il a été avec un maître soufi pendant très très longtemps. Sa mère était chrétienne, puis elle s'est convertie. C'est un Auvergnat d'abord, au rugbyman, qui était catholique. Sa mère était catholique et puis il s'est converti à l'islam. Il a eu un maître soufi pendant très longtemps, et puis maintenant il n'a plus de maître, mais il continue la pratique de l'islam. Sa femme, avec qui ils ont des enfants, c'est une juive, qui elle a eu un rapport à la judaïté un peu compliqué, mais bon, qui a une pratique, disons, juive, mais qui n'a pas non plus, qui ne va pas forcément voir un rabbin, ou qui a été, mais qui n'y va plus. Enfin, ça, je m'avance, je ne connais pas le détail. Et puis il y a des gens de... Il y a des gens d'autres spiritualités qui viennent. Bon, il y a Jacques Casterman qui est venu de Grave-Durkheim. Donc, Centre Sésame, ça se veut un centre de culture spirituelle où, justement, les gens qui ont eu des maîtres et qui n'en ont plus essayent de voir qu'est-ce qui les relie et de construire quelque chose ensemble. Alors, c'est une ébauche, hein, pour le moment. C'est une ébauche, mais c'est vraiment... C'était pour dire qu'il y a peut-être une piste possible, quoi, aujourd'hui, où il n'y aura plus de hiérarchie. Mais voilà, c'est une idée au passage. Mais moi, en tout cas, c'est comme Stephen Batchelor, moi aussi, ça me parle beaucoup. Son parcours me parle beaucoup. Et voilà, bon, c'est une piste qui m'intéresse personnellement.
Et là, en l'occurrence, ça tient depuis un... bon nombre d'années déjà, plus de 10 ans je pense, et effectivement c'est vraiment l'idée c'est de, alors, mais c'est vrai qu'au niveau des pratiques, il y a certaines pratiques d'ouverture, ou de, mais sinon c'est vraiment plutôt l'idée c'est du partage de culture et d'expérience en lien avec la spiritualité. Donc c'est des intervenants qui ont des... C'est sous forme de séminaire ou choses comme ça, avec des intervenants qui viennent de tel environnement et qui du coup partagent ça à un groupe qui bouge.
Mais là, depuis un an, ça évolue. C'est pour ça que je dis qu'il y a une évolution. C'est que c'était jusqu'à maintenant un partage. Mmh. Et depuis un an, quelques mois, ça devient... Il y a des compagnons du Sésame qui essayent de construire quelque chose.
Ah, ok.
qui essayent donc dans... Mais c'est compliqué, hein, c'est, effectivement. C'est compliqué, mais toujours avec des aides extérieures, avec des références aux livres, quels qu'ils soient. Hein. Ben voilà, donc c'était juste encore le passage. Tout ça pour dire, moi, je, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me parle. Bon, comme moi je suis errant dans les sanghas, je suis maudit sage-là errant, c'est quelque chose, j'ai besoin d'avoir des référents, et en même temps j'ai pas besoin de référents, enfin les deux.
C'est ce centre où il va, Antoine ?
Exactement.
Oui, c'est ça.
Pardon ?
Antoine.
Oh. On connaît quelqu'un.
Antoine. Ah oui, Antoine.
Ah, tu connais Antoine ?
Oui, bien sûr. Oui, il, était...
il habitait là-bas, c'est pas
il est... Oui, il était parce qu'il habite Avignon, parce qu'il y a, il y a un centre... Enfin, il y a des journées Sésame à Paris, rue de Vaugirard. Je ne suis jamais allé, moi. Et puis là où je vais souvent, c'est au Mas des Candelles, d'à côté d'Avignon, où Antoine a été résident pendant un an ou deux. Il a, été, il a participé.
Et Antoine pratique avec nous.
Mais je l'ai vu par hasard, une, un zoom là, que tu avais fait. Je n'étais pas resté longtemps parce que j'étais occupé ah, ce oui. jour-là. Je lui ai dit, tiens Antoine, qu'est-ce qu'il fait là?
Ben oui, tout est possible. Hein. Je trouve que ce qui, parce qu'on explore beaucoup ces histoires de hiérarchie, système et tout ça dans différents cours que j'enseigne sur les, pour qu'il n'y ait pas des abus dans les sanghas. Et les communautés où il n'y a pas de... C'est pas tellement qu'il y a une hiérarchie, mais où les rôles ne sont pas bien définis,
c'est ça.
Il y a toujours des problèmes.
C'est vrai, ah, je suis d'accord.
Donc, c'est des problèmes de qui fait quoi, mais comment, quelles sont les relations de pouvoir, quel est le rôle de quelqu'un qui est vulnérable par rapport à quelqu'un qui est forte, etc. C'est pas tellement qu'il faut une hiérarchie verticale qu'on a réplique, évidemment, on a recréé. C'est plutôt une histoire de définir, et je crois que tu faisais référence à ça, définir un rituel à la fin ou quelque chose. Hein. Avec Steven, c'était comment on termine les choses.
Il y avait beaucoup de choses. Il y avait un problème de, effectivement, d'absence de rituel, et donc dans des situations, j'ai fait participer pendant un an et demi à un séminaire d'études, et il y a eu un décès dans le groupe. Il y a une personne qui est décédée. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y avait un besoin. Et comme on n'était pas rattaché à une tradition particulière, bah, la question, c'était bah, on fait quoi ? Comment on s'organise ? Qu'est-ce qu'on
qu'est-ce
fait,
qu'on
donc
fait
et ils se sont tournés vers moi, puisque j'étais celui le plus dans les formes. Donc, et on a travaillé ensemble pour essayer de faire quelque chose qui fasse sens pour tout le monde. Ça, c'était effectivement un problème. Et la deuxième chose, c'était après, les gens, une fois que ça se terminait, tu dis là, les gens ils vont, ils viennent. La question c'était, ils sentaient qu'il fallait, ils avaient envie de poursuivre parce que quand j'avais demandé qui a une sangha, ils étaient assez peu en fait. C'était des gens un peu solitaires et ils avaient ce besoin. Donc ils se sont dit, on pourrait faire quelque chose ensemble. C'est très ça, et ça fait la deuxième fois que je suis dans des longs cours, enfin dans des longs workshops avec Steven et le Body College où il y a cette même problématique de gens hors sangha. Qui aimerait bien faire sangha, mais en même temps, aucun de ces teachers-là, Steven Batchelor et autres, ne veulent prendre la responsabilité de ça. Et donc c'est très con, c'est laissé aux gens. Et il y a des affinités qui se créent, il y a des liens d'amitié qui se créent, mais c'est pas suffisant pour faire une sangha.
Mais il faut des rituels, hein, c'est sûr. Il faut des rituels. Et bon, les rituels du sésame, c'est une heure de silence le matin. C'est pas des azènes, c'est une heure de silence le matin à 8h, de 8 à 9, et une heure de silence l'après-midi. Le matin, c'est des échanges, des ateliers plus intellectuels, et puis l'après-midi, c'est plus des ateliers, mais c'est quand même encore très, c'est des, on peut pas dire ateliers, c'est des samous, ils ont des oliviers, tout ça, donc on fait du travail en commun, quoi. Mais dans l'heure, le plus important, donc, qui se met en place, c'est cette, et qui est ça, entre guillemets, qui fait partie du rituel, c'est l'heure du matin ou l'heure du soir, où chacun vient avec sa pratique, qu'il soit musulman, catholique, bouddhiste, athée, peintre, photographe, lecteur, écrivain, n'importe quoi. Et pendant une heure, on est en silence et chacun fait sa pratique.
Ah. Voilà. Donc, quelqu'un peut peindre ou écrire, ouais. Mais en silence. Ouais.
Mais en silence, par contre, en silence. Hein.
Dans une pièce.
Dans une pièce, avec des tapis, tout ça, avec une bougie au milieu.
Ah, donc ensemble, c'est pas quelqu'un
ensemble.
Va.
Ah, oui, non, c'est ensemble, oui.
Quelqu'un va
ah, oui, c'est
dans sa chambre.
Ouais. C'est ensemble, oui, tout à fait. Après, bon, il y a des randos, un peu comme ici, ensemble, ou des samous. Ça ne s'appelle pas samou, mais c'est. Et c'est plus soft, mais c'est l'idée, quoi. Et puis après, des échanges, alors sur les traditions, alors il y a toutes les traditions spirituelles, de l'Inde, du bouddhisme, de l'islam quand même, qui est un peu prédominant, parce que bon, comme c'est Abdennour qui effectivement a impulsé ça, lui, il y a beaucoup de références là-dedans, mais bon. Bon, je ne voulais pas mettre le débat là-dessus.
Bon, je ne sais pas si c'est un débat, hein. Je trouve que c'est... Je ne me souviens pas comment on a parti. Ah oui, parce que tu disais que Sakura Dharma, c'était...
C'était par rapport à la, ah, ce oui, qu'elle oui, disait sangha. Sur la sangha qui se délite à la mort du maître.
Oui, c'est ça.
Et l'importance, effectivement, de...
Oui. Et elle parlait donc de, son, de Jacob Ross. Et pourquoi elle parlait de Jacob Ross?
Parce que c'était mon maître. Oui. C'était mon maître.
Oui, mais je sais, ouais. Non, je sais, non, mais ouais. Je cherche la causalité
pour oui, monter c'était ça.
Avant.
Non, parce qu'on disait qu'il y a des gens qui partent, qui ne ouais. Viennent plus à la sangha.
C'est parce que aussi tu disais qu'on était toujours là. Enfin, comment dire, tu vois, qu'il y a.
Oui, c'est ça. Ouais.
Tu disais, c'est ça qui m'avait fait réagir. Tu disais que si on est là, c'est parce que y a quelque chose qui fait qu'on est là. Tu vois.
Oui,
Et donc c'est ça m'avait fait repenser à tous ces gens qui ne sont plus enfin qui pour moi ne sont plus là mais en fait j'en sais rien, t'as raison ils sont peut-être là mais pas avec moi quoi.
Oui.
Une phrase de Jorge Luis Borges qui dit ya somos el olvido que seremos, on est déjà l'oubli que nous serons.
On est
Ya somos el olvido que seremos.
On est déjà...
Nous sommes déjà l'oubli que nous
l'oubli.
Serons.
Ah oui.
Et donc, ceux qui sont plus là, ils commencent à être dans l'oubli, mais ils ont été là. Enfin bon, c'est après un peu mon idée là-dessus. Quoi.
Donc, si on. Reviens avant. Ça change. Notre expérience de l'oubli, des gens qui sont pas là, des hiérarchies, des différentes. Parce que c'est ici où on trouve, de toute façon.
J'aime bien l'image que Roshi utilisait quand on était à Pandeux, je crois que c'était à la transmission de Michel. Dans son enseignement, elle disait que le dharma, que c'était comme si elle était dans une barque avec plein de briques d'or. De briques d'or.
Oui.
Et que c'était lourd à porter. Et que le fait qu'il y ait des successeurs, bah, que c'est donner un peu de d'or ailleurs.
Pas mal.
Ça m'a fait penser à ça, le fait qu'il y a quelque chose de lourd dedans et de... pas facile ou de...
Et de précieux.
De précieux.
Et de précieux.
C'est l'or. Oui.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est peut-être aussi ce qui est difficile, de lâcher l'idée qu'on a de... T'aurais pu faire toute autre chose.
Mais
il y a quand même cette... Moi, j'ai cette obligation quand même morale de se dire on est là pour partager, on est là pour transmettre et pas juste transmettre en parlant, mais qu'il y ait ultimement des gens qui prennent la suite, quoi. Et ça, c'est quand même une énorme responsabilité.
Oui, et je sais que moi-même, je suis venue à cette pratique parce que, à l'origine, je voulais le partager avec des autres. Pas que c'est moi qui est assis ici, mais je voulais connaître des gens qui faisaient ça, qui partageaient. des gens qui aimaient la même chose que moi. Et donc, j'ai su, mais c'était mon tempérament, que moi, j'avais besoin d'un cadre. Ça me parlait d'avoir un cadre, bien que ça m'était égal quel était le cadre, vraiment. Mais j'avais besoin d'un cadre dans lequel je pouvais pratiquer ça, rencontrer des gens, avoir un maître, etc. Peut-être que j'aurais rencontré le centre Sésame, j'aurais trouvé ça là. Enfin, c'était un cadre aussi, hein, c'est juste un autre cadre.
Mais dans le centre de Sésame, c'est quand même des gens qui ont déjà leur pratique.
Exactement, c'est ça.
Alors que quand tu commences quelque chose, bon, je ne sais pas, moi j'ai une sensation qu'il faut aller à fond dans une pratique. Sinon, c'est comme si je survolais tout. Enfin, c'est un peu pareil dans...
Ouais. Je trouve que, moi aussi, moi je trouve que c'est très bien d'expérimenter plein d'autres choses, mais c'est important d'avoir un ancre quelque part dans la pratique. Et de... Moi, j'ai vu beaucoup de différentes choses, hein, mais c'était ça mon base.
Et ça, c'est pas évident non plus. Moi, j'ai fait du shopping. J'ai testé deux ou trois trucs que j'avais trouvé sur l'internet. Bon, après, c'est une question de est-ce que ces gens-là me parlent ou est-ce que l'endroit me parle. Mais par contre, je me suis planté pendant un long moment dans un système où, puis d'un coup, je me suis réveillé. Je me suis dit, c'est pas bon ce truc.
Oui, donc tu t'es fait confiance, tu as dit non. Ça...
Moi, j'étais pas que adulte, j'étais déjà âgé. Si mon pif me dit que c'est pas bon, let's go.
Oui.
Et chez Gano, le seul truc, j'ai passé une soirée super, et quelqu'un est sorti en disant cette histoire de Dyson et de Dokusan. The line is open for Dyson. Dyson must be their master, right? He's the maître. He's dead. Oh my God, they're talking. She's a medium and she talks to Dyson in this room. And I got out in the car and I thought, that sounds very screwy. I mean, you think you should come back? Just wait, we'll work it out. I was sure that Dyson was their Japanese guy who had gone to heaven and was...
The line is open.
The line is open, but thank you, John. Somebody else can't find it. I was sure they were talking to Dyson.
Ben oui, voilà ce qui se passe quand on utilise du jargon, quand les initiés sont au courant et les autres n'ont aucune idée de quoi il s'agit. C'est vrai.
Moi, ça m'a interpellée tout à l'heure parce que je ne reconnaissais pas le mot tellement Dokusan, tu vois. J'étais plus familier avec Dyson et ça m'avait juste intriguée. Je me suis dit, j'aurais même pas su dire que c'était un autre mot qu'ils utilisaient, mais il y avait quelque chose que je reconnaissais pas, tu vois. Et quand tu as dit Dyson,
he's dead.
Ah oui, c'est ça. Et c'est encore une fois où on se fait prendre par les mots, les concepts. Mais bon. Je suis écrivain, je sais que les mots sont très puissants et sont magnifiques aussi. Et cette pratique, toutes ces choses, comme dans le centre Sésame, mais pas uniquement, tout se brasse aujourd'hui. Toutes les écoles bouddhistes n'ont jamais, jamais se croisées comme ça. Hein. Quelqu'un comme Stephen Batchelor, je vais en prendre ça comme exemple, qui a pratiqué dans différentes traditions, mais à fond. Oui. Il était à fond dans le bouddhisme tibétain, à fond dans le zen coréen.
Eckhart Tolle s'est baladé un peu aussi. Il a une saison dans un master zen. Hein.
Donc ça, des gens comme ça n'existaient pas autrefois. Hein. C'est vraiment moderne que ça existe. Ou les catholiques qui sont maîtres zen, ou les juifs, les rabbins qui sont maîtres zen. Et donc, évidemment, ça va frotter, ça va influencer, comme le taoïsme, beaucoup on dit, David Hinton d'ailleurs, il dit que en fait, le zen, c'est pas du tout bouddhiste, c'est taoïste.
Ouais.
Et c'est vrai, d'une certaine façon.
Ça me fait penser à ça parce que j'ai partagé ça avec personne, mais je sais pas si c'est complètement à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais quand j'étais chez Dana en train de méditer, non, en train de chanter, je crois, il y a vraiment quelque chose qui m'est revenu comme une image très très forte de. Quand j'avais 16 ans, j'étais obligée d'aller à l'aumônerie par mes parents. Là. Et du coup, la magie de l'aumônerie, c'est qu'ils nous avaient emmenés à Thésée. Et que j'avais passé une semaine à Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez Thésée. Oui. Et du coup. Et c'était incroyable parce que je me suis dit waouh! Et moi, j'étais bouleversée à 16 ans par Thésée. Vraiment, j'ai passé une semaine là-bas à chanter avec les prêtres. Donc, ce sont des prêtres. J'avais été vraiment bouleversée et c'était marrant parce que c'était il y a très longtemps et j'ai complètement oublié cette période de ma vie. Enfin, et là je me retrouvais en train de chanter justement les chants et je me dis mais il n'y a aucune différence, c'est que j'étais ce que je vivais là dans l'instant présent, c'était exactement ce que j'avais vécu là-bas. Enfin, aussi quelque chose de je ne sais pas pourquoi ça me fait, dans votre discussion, ça me fait penser à ça, comme si c'était une porte ouverte pour moi d'accéder à quelque chose. Enfin, je ne sais pas comment faire le lien avec ce dont vous parlez, mais en tout cas, moi, à Thésée, à 16 ans, c'était la même chose que moi, en train de chanter des choses à 50 ans. Je ne sais pas comment expliquer. C'était la même chose.
Mm-hmm. Ah oui. Ah oui, c'est là où on se rejoigne, en fait. Et j'imagine, dans ce centre Sésame, ils doivent trouver des terrains comme ça aussi, où ils se rejoignent. Plutôt que focaliser sur les différences, parce qu'il y a beaucoup de différences.
C'est des portes qui s'ouvrent, c'est vraiment des chemins d'accès, en fait, des voies d'accès à quelque chose. Enfin...
Ce que nous, on va dire au Bouddha, ce qu'eux, ils vont dire au Dieu... ce que les musulmans vont dire Allah, c'est différent.
Mais surtout, c'est exactement ce que tu dis, c'est que du coup, il n'y a pas de mots, c'est une expérience, tu vois, c'est que quand je suis là en train de chanter, je me dis, mon Dieu, mais c'est... Mince, c'est ça que je faisais à Thésée. Ah d'accord, c'était déjà... Je savais déjà, à 16 ans, j'avais déjà pigé ça, en fait. Je venais de nulle part, j'avais aucune connaissance, et pourtant, j'ai accédé là où j'accède aujourd'hui avec... toute cette connaissance et toute cette...
Oui.
C'était vraiment de l'ordre de l'expérience, de la... Waouh, c'est... Ouf, je suis au même endroit où... C'est moi déjà et je suis au même endroit. Quoi.
Avec d'autres aussi, c'est ça aussi. C'est relationnel.
Oui.
C'est la dimension essentielle, en fait, où ce que tu décrivais, on est ensemble et on est juste ensemble. Et on fonctionne ensemble, qu'on chante ou qu'on soit en silence ou qu'on... face à la cuisine, on est juste ensemble.
Mais le leitmotiv au masse des candelles du Sésame, c'est libre au pluriel ensemble. Mmh.
Mmh. Et cette discussion me fait encore plus étonnée de ta nièce, parce que franchement, à l'école, on n'est pas en train de leur dire, vu que les gens sont en train de se bouffer la gueule sous le nom de la religion, moi, mes élèves étaient... Enfin, bon, ils étaient au courant un peu de ce que c'était le bouddhisme à cause de moi, mais ils savaient, les gamins musulmans savent qu'ils sont les juifs déjà. Et, alors, est-ce qu'ils étaient calés par rapport au christianisme? Mais ça, on parlait beaucoup de ça. Enfin, je trouve que c'est un peu pauvre de... Mais ça, je ne mets pas en question ta nièce, hein, mais l'école publique n'est pas en train de dire aux gamins pourquoi les adultes sont en train de s'engueuler, c'est minable, hein.
C'est jeune.
C'est grave. Ah non, c'est pas jeune.
Peut-être que l'idée du professeur, c'était plutôt s'ouvrir.
Ah oui, peut-être que c'était
présente les différentes
choses. À un moment, j'étais tellement étonné, j'ai dit, c'est quoi l'objectif de... Ouais. C'est quoi le... Est-ce que c'est pour un truc sur les fêtes religieuses ou est-ce que... Parce que j'étais abasourdi par ces questions, en fait.
Surtout que l'adolescence, c'est le moment, ce que j'ai vécu, moi, avec les adolescents.
où il se pose justement qui suis-je et est-ce que quelle est ma relation avec le monde et avec Dieu et avec le machin. Question libre pour une classe de troisième, c'est qui est Dieu. Excuse me, I'll be right back.
Quelle heure est-il?
Il reste 2 minutes 50.
Donc peut-être qu'il faut s'arrêter là. Merci pour cette riche discussion.